Bonjour Loïc Tassé.
Bonjour Bernard Drinville.
Tu vas nous parler d'abord de Donald Trump et de la Chine, parce que là, il y aurait des développements par rapport à la Corée du Nord.
Oui, il vient de faire une annonce, il était très fier de dire ça, c'est qu'il a annoncé, Donald Trump, de nouvelles sanctions face à la Corée du Nord. Il a dit que désormais, le département du Trésor des États-Unis allait cibler toutes les entreprises, toutes les institutions financières qui faisaient affaire avec la Corée du Nord, et donc il va probablement leur interdire de faire affaire aux États-Unis, leur demander des sanctions, etc. Mais plus que ça, il a dit que la Chine avait décidé de faire la même chose, que Xi Jinping allait interdire aux banques chinoises de faire affaire avec la Corée du Nord. Alors ça, c'est une très grosse nouvelle, et ça signifie donc que financièrement, la Corée du Nord va avoir beaucoup de difficultés. Tout ça pour essayer de ramener la Corée du Nord à la table de négociation. Et d'ailleurs, là-dessus, Donald Trump a déclaré qu'il était encore temps de négocier et que lui souhaitait des négociations avec la Corée du Nord.
Oui, mais sauf que les Nord-Coréens, dans les dernières 24 heures, ont fait des déclarations qui ne sont pas très diplomatiques.
Oui, il a dit, ils ont dit les chiens aboient et la caravane passe. C'est ce que le ministre des Affaires étrangères de Corée du Nord, Ri Yong-ho, a déclaré. Ce qui n'était pas très aimable, en effet, à l'égard de Donald Trump.
Mais c'est parce que là, il y a pas mal de gens qui ont dit les chiens, donc le chien, donc Trump.
Bien sûr. Hein? C'est ça, très clair que ça c'était qu'ils ont traité indirectement Donald Trump de chien. Mais bon, ça c'est de la rhétorique. Il faut voir ce qui se passe derrière en coulisses. Mm-hmm. Et je pense que les Chinois et les Nord-Coréens se parlent, qu'on essaie d'établir les conditions préalables à des pourparlers. Il faut espérer que ça va dans ce sens-là. Je te dirais quand même que c'est un peu mauvais signe que les Chinois soient obligés de faire des pressions économiques aussi considérables sur la Corée du Nord, parce que ça montre effectivement que la Corée du Nord est extrêmement réticente à s'asseoir à la table de négociation. Mais remarque bien qu'avec ce qui est en train de se passer en Iran, on peut les comprendre, parce que Donald Trump est en train de déchirer l'accord que les États-Unis ont signé en 2015, alors que l'Iran développait l'armement atomique. Eux vont dire que non, évidemment, oui, les Iraniens, ça. Mais quand même qu'ils le développaient. Et ils ont décidé donc de déchirer cet accord. Alors, les Nord-Coréens doivent se dire, mais à quoi bon signer un accord avec les États-Unis si c'est pour le déchirer quelques années après?
Oui, ça, c'est un bon argument. C'est un bon argument. Moi, je vais te dire, quand j'entends Trump annoncer au nom de la Chine qu'elle va élargir ses sanctions, je sais pas, penses-tu que les Chinois sont contents de ça, toi? Penses-tu que c'était prévu dans le scénario, que c'est Trump qui a annoncé au nom du gouvernement chinois que dorénavant...
As-tu vu la photo de Kelly, le chief of staff, le chef de Trump, alors que Trump prononçait son discours à l'Assemblée générale de l'ONU? Je sais pas si tu l'as vu.
Non, je l'ai pas vu. J'ai vu la photo de lui.
Il y a une main sur les yeux, la tête baissée. Puis c'est au moment où il parle justement de l'Iran, et il a l'air tellement désespéré d'entendre des paroles de Trump. Trump a tellement l'air de sortir de ce qui était convenu. On a l'impression qu'il se demande ce qu'il est en train de faire dans cette galère. Donc non, je sais pas, je pense pas que Trump suive un scénario préétabli. Ouais.
Alors, parlant de l'Iran, on s'en est parlé, toi et moi, on trouve ça très, très, très dangereux que Trump se retire de l'entente avec l'Iran sur le nucléaire, parce que ça pourrait enclencher une course à l'armement nucléaire dans cette région extrêmement volatile et instable.
Oui, en fait, ce qu'il a dit hier, c'est qu'il avait pris une décision, mais qu'il n'allait pas la rendre publique. Alors, quelle est cette décision? On ne sait pas. Ce qui est un peu rassurant, pas rassurant, c'est comme on a dit hier qu'il y avait eu des paroles très dures contre l'Iran et on a l'impression qu'il veut se retirer de l'accord. Mais quand même, Macron a dit peut-être qu'on pourrait renégocier quelque chose. Et on entend dire entre les branches qu'en fait les États-Unis voudraient rouvrir l'accord pour y ajouter trois choses. Un meilleur contrôle des activités balistiques, une prolongation de l'accord après 2025 et ils voudraient aussi discuter du rôle de l'Iran dans la région. Est-ce que c'est possible de faire ça? Est-ce que l'Iran accepterait ça? Jusqu'à présent, c'est une fin de non-recevoir. Ils veulent surtout pas rouvrir ça. Ils disent, les Iraniens disent, si jamais Trump déchire cette entente, cet accord, nous, on va considérer que c'est une carte blanche pour agir comme bon il nous semblera.
Alors, bon, je suis pas de surprise là-dedans. Là. Moi, je vois pas pourquoi les Iraniens iraient renégocier une entente parce que Trump là, leur demande. Là, c'est de valeur, là, mais je peux pas faire autrement que de leur donner raison. C'est Trump qui est dans le tort. Cette entente-là, c'est sans doute pas une, comment dire, il y a un peu, c'est un peu un moindre mal, mais c'est quand même une bien meilleure entente que la situation qui existait avant l'entente, et ça a stabilisé effectivement la région. Et, et le seul partisan de la position de Trump, c'est Netanyahou en Israël, et ça, en soi, ça devrait nous indiquer quelque chose. Parlons rapidement de la Catalogne. Il nous reste une minute, Loïc. Faut pas oublier ce qui se passe en Catalogne. Et là, selon toute vraisemblance, malheureusement, le référendum n'aura pas lieu. Là. La consultation populaire n'aura pas lieu. Là.
C'est pas exactement ce que le gouvernement dit. Le gouvernement catalan a assuré que le référendum aurait tout de même lieu, mais pas dans les conditions habituelles, parce que, tu sais, je t'avais dit hier qu'il y avait 6 millions de bulletins de vote qui avaient été saisis. C'est pas 6 millions,
c'est
finalement.
10.
C'est 10. Oui, c'est ça. Alors là, on se dit, mais comment ils vont faire? Et en fait, il y a beaucoup de tensions en ce moment. Il y a des milliers de manifestants qui se sont déplacés devant la Haute Cour à Barcelone, qui doit décider aujourd'hui du sort de 15 indépendantistes qui ont été arrêtés. C'est une situation qui est vraiment très inflammable, je dirais, parce que le Premier ministre catalan, s'il ne tient pas son référendum, va avoir énormément de manifestants dans les rues. Puis s'il le tient, il va avoir des problèmes avec l'Espagne. Donc il est pris véritablement, il s'est mis le doigt entre l'arbre et l'écorce. Je ne sais pas comment il va s'en sortir. En tout cas, le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, a déclaré que le référendum était une chimère. Et il a appelé les indépendantistes à abandonner leur plan. Sauf que les indépendantistes disent, référendum ou pas, nous, on prévoit déclarer l'indépendance. Alors, la situation, donc, continue à s'envenimer.
Voilà. Et on espère juste que ça va pas donner des idées à ceux qui, devant l'impasse démocratique, auront d'autres idées. On sait que l'Espagne a déjà eu des mouvements indépendantistes qui avaient... qui utilisaient la violence. Le mouvement ETA basque a déposé les armes, mais il y a eu combien de milliers de morts avant qu'ils le fassent? Les Catalans sont jamais vraiment allés là, à ma connaissance, là. Mais je veux dire, quand un gouvernement empêche le peuple de se prononcer par des voies démocratiques, il peut y avoir des gens qui peuvent dire, bon, mais très bien, il ne me reste que l'autre alternative. On ne veut pas ça, mais c'est malheureusement, je crains, moi, que le gouvernement central espagnol soit en train de créer.
On passe par une autre voie que le référendum
qui serait
pour
négocié.
Déclarer l'indépendance, tout simplement. On fait des élections référendaires, on fait ce genre de choses.
Ou on déclare unilatéralement par une motion du Parlement catalan, où ils sont majoritaires, on le rappelle. Loïc Tassé, politologue, spécialiste de l'Asie, chargé de cours à l'université, chroniqueur et tout le reste. Merci et à demain.
À demain.
Et on s'arrête et juste tout de suite après, cette histoire quand même, c'est quelque chose, un narcotrafiquant québécois. L'histoire d'un narcotrafiquant québécois en Colombie, tout de suite après la pause.